Non, s'il y a du monde pour venir comme ça, c'est une assemblée tout à fait satisfaisante pour faire des réunions régulières une fois par mois. Ça nous va très très bien. C'est parfait, quoi.
Linux et compagnie, épisode 2. Richard Stallman ou la philosophie du libre.
Donc, en gros, voilà le plan. L'aspect historique, les principes à la fois éthiques, techniques et autres. Linux dans tout ça, et surtout à la fin, l'utilisateur final qui en veut un usage tout à fait pratique. Un usage de non-spécialiste.
Et après, vous avez toujours la possibilité quand même en cas de panne, c'est pour ça que c'est bien d'être sur la liste, mais si vous comprenez rien au message, que ça ne vous intéresse pas, en cas de panne, il ne faut pas hésiter à dire je suis en panne, essayer de décrire un peu la panne, et nous on vous accueille ici, hein. Tous les gens ne sont pas loin d'Albi. Même si moi je suis pas dispo, je suis sûr qu'il y a quelqu'un du club qui se proposera pour prendre rendez-vous. Venez ici, il y a tout ce qu'il faut, il y a internet, pour faire des mises à jour. Oui, ça. Faut pas hésiter à demander. Bon, après, s'il y a personne, personne répond, mais.
In the late 70s, Xerox gave us a laser printer. Now that was the first generation of laser printer, and it was extremely fast and powerful. It was very high density, but it got lots of paper jams. So it was frequently jammed, and it was in a place not near anybody's office. Nobody would ever see it except when someone went there to collect a printout. So it could stay jammed for an hour. You could send something to the printer, and eventually you realize, well, I printed something, I should go pick it up. And you go there and you find out it's been jammed the whole time. So it worked very badly in practice. I knew a solution for that.
La voix que l'on vient d'entendre, c'est celle de Richard Stallman, programmateur et militant du logiciel libre, initiateur du mouvement du logiciel libre et un peu gourou à ses heures perdues, en tout cas un peu mystique. Débonnaire, plein d'humour, il déploie cependant sous ses airs rigolos une philosophie puissante, tangible et pratique, et invite à penser le monde, notamment l'informatique, tout autrement que ce dont on a pris l'habitude depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Il nous invite à repenser la propriété notamment. Il a aussi popularisé le terme anglais « copyleft », qu'on traduit parfois comme « gauche d'auteur » en réponse au « copyright », souvent traduit par « droit d'auteur ». Dans les années 70, en travaillant au MIT, ou MIT, Massachusetts Institute of Technology, il y découvre l'éthique des hackers, le partage des connaissances, le refus de l'autorité et le perfectionnisme. Cependant, peu à peu, l'ambiance des débuts change et il est de plus en plus rejeté par ses pairs, qui accepte des postes dans des entreprises créant des logiciels propriétaires. Un peu plus tard, dans les années 80, il vit une expérience d'injustice à propos d'une imprimante, une expérience qui va l'amener à choisir son camp, le camp du libre, mais on y reviendra. On continue la balade sonore avec Yves et Fred du club Linux Tarn. Nous sommes en janvier 2018 à Albi lors d'une réunion gratuite et libre pour débutants dans la maîtrise de Linux, ou GNU Linux. Bonne écoute.
Au départ, ce qu'on appelait ordinateur, c'était des machines énormes, de quelques tonnes, qui occupaient des hangars entiers, et qui n'étaient d'ailleurs pas de l'électronique, qui étaient des machines électromécaniques, qu'on programmait avec de la mécanique ou un peu d'électricité. Typiquement, un programme, c'était sur une carte perforée en carton, et on rentrait ça dans un lecteur de cartes. Chaque fabricant matériel avait son propre système, sa propre façon de programmer, et c'est que dans les années 60 qu'on s'est mis vraiment à concevoir du logiciel qui soit utilisable même chez un autre constructeur de machines. Alors il y a eu, c'est venu au départ très souvent de scientifiques et d'informaticiens américains. Il y a eu Unix, UNICS, alors ça devait dire quelque chose du style uniforme... Uniplexed, je sais pas quoi, Information and Computing System. Et plus tard, ça a été les quatre lettres Unix, à partir de 1969. Alors, l'aspect logiciel, maintenant qu'on ne fait plus de la programmation purement électrique ou mécanique, c'est toujours, au bout du bout, taper du texte brut, et la machine le transforme en une forme exécutable par elle. Autant ce qu'on appelle la compilation, le passage du texte à la forme binaire, on va dire c'est le passage naturel, facile, la machine le fait. Autant revenir d'une forme purement exécutable vers du code, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que si dans tel ou tel système vous avez la forme exécutable, le point .exe de Windows par exemple, il vous sera quasi impossible, même si vous êtes un grand spécialiste, de savoir de façon fine, fiable, comment le logiciel a été programmé en interne. Alors, à la fin des années 70, Richard Stallman était un chercheur en intelligence artificielle, ça existait déjà, au MIT, à Boston, et lui a été confronté à un bête problème d'imprimante. Dans son département, ils avaient une imprimante Xerox à plusieurs dizaines de milliers de dollars et qui faisait des bourrages papier. Une des premières imprimantes laser très haut de gamme, mais qui faisait des bourrages papier. Et lui, dans un premier temps, avait mis au point un programme pour l'imprimante qui prévenait qu'elle était en bourrage ou qu'elle n'imprimait plus. Mais après, il a voulu tout simplement avoir accès au code du driver, du pilote, pour voir d'où pouvait venir le problème. Et ça lui semblait naturel de procéder comme ça. D'ailleurs, au début, quasi toute l'informatique était libre, puisque c'était des scientifiques qui créaient les programmes. Ça leur semblait naturel de partager ça comme des maths, comme de la physique ou autre. Ça ne leur venait pas à l'idée d'en faire commerce. Et donc, réponse de Xerox, dans un premier temps, c'est non. On ne vous fournit pas le code du pilote. Dès qu'on pourra, on vous fournira un pilote amélioré. Alors, il a su se montrer insistant. Au bout de quelques temps, ils ont bien voulu lui fournir le code du pilote, mais en lui faisant signer un accord de non-divulgation. Donc, hors de question qu'il communique à des scientifiques d'autres facultés et qui auraient le même matériel, ni le code, ni les améliorations que lui pourrait en faire. Et ça allait totalement à l'encontre de ses convictions, ou même de son travail de base de scientifique.
Et parce que j'avais échoué à avoir le code source, ça m'ennuyait, je n'arrêtais pas d'y penser. Et je savais qu'il ne m'avait pas trahi qu'à moi et mes collègues du MIT, mais il avait trahi le monde entier. Il n'aurait aidé personne qui aurait eu besoin d'aide. Ce que j'en conclus, c'est que les clauses de non-divulgation sur les informations utiles étaient des trahisons. Elles ne sont pas éthiques. Ça m'a poussé à reconnaître les logiciels propriétaires non pas seulement comme un désagrément, mais bien comme un mal en soi. Ça vous rappelle rien cette anecdote de Richard Stallman et son imprimante dont Xerox veut garder la propriété du code source? Allez, si, réfléchissez, ça rappelle un autre discours. Un discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et les femmes, devrions-nous ajouter, aujourd'hui. Un discours d'un certain Jean-Jacques. Vous savez, Gigi Rousseau, celui dont c'est la faute si Gavroche est tombé le nez dans le ruisseau et ne s'en est d'ailleurs jamais relevé. Enfin, ça c'est pour la chanson et la fiction. En vrai, Jean-Jacques Rousseau, il a théorisé quelque chose que ne devait pas ignorer Richard Stallman.
Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur ! Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne !»
Je ne veux pas acheter de maison, je veux pas acheter d'appartement. J'ai rien à part une vieille idée, la propre. propriété, c'est du vol. Mais si demain tu me quittais, et si demain tu t'en allais, je souffrirais tellement, même si la propriété, c'est du vol. Je ne serai jamais à toi, tu ne seras jamais à moi. Ce à quoi je crois, la propriété c'est du vol. Tu serais pour toujours à moi, mais même en rêve je ne veux pas, car je sais que même en amour, la propriété c'est du vol. Mais à moi, je ne serai jamais à toi. Garderai ma vieille déo, la propriété c'est du vol. Mais si demain tu me quittais, et si demain tu t'en allais, je souffrirais tellement, même si la propriété c'est du vol. La propriété c'est du vol.
Merci à Didier Van Pass. Retourne auprès de Fred du club Linux Tarn.
Et donc en 83, il a lancé le projet GNU, GNU. Alors c'était GNU is not Unix, tout simplement parce qu'il voulait créer un système compatible Unix, mais les Unix à l'époque, utilisés ou créés par des facultés en fait, étaient des logiciels payants assez cher, mais sur lesquels on pouvait quand même aller voir le code source. Donc si on l'utilisait, il fallait payer, mais n'importe qui pouvait avoir, pour la plupart d'entre eux, accès au code source. Et donc lui voulait à la fois offrir la liberté totale, enfin on verra après ce que ça veut dire, la liberté du logiciel et l'accès au code source. Et la conséquence, c'était que si quelqu'un récupérait le code source et se débrouillait avec, ben, de fait, ça devenait aussi gratuit. Mais son but, c'était la liberté, c'était pas de rendre le logiciel gratuit. Parce que du logiciel juste gratuit, ben Microsoft en fait aussi, pour certains. Alors, les principes de base, ce que lui a défini, Richard Stallman a défini comme du logiciel libre, il a théorisé ça par quatre libertés. Alors, l'utilisation, d'abord. Ben, on peut penser qu'une fois le logiciel récupéré ou acheté, on peut l'utiliser comme on veut. Ben, c'est même pas vrai, même pas à l'heure actuelle. Vous avez une copie de Windows, elle est liée à une machine, un exemplaire de machine particulier. Si vous changez de machine, vous rachetez une licence. Dans ces versions dites professionnelles, par exemple, certains Windows serveurs, peu importe l'année, interdira plus de 25 connexions simultanées par le réseau, alors qu'il a les possibilités de les traiter. À un moment, Microsoft avait un éditeur de pages web, à l'époque où on les faisait une par une, FrontPage. Alors là, c'était très rigolo. Il y avait un tout petit caractère quelque part dans la licence, l'interdiction d'utiliser le logiciel pour créer des pages critiquant Microsoft. Véridique. Je crois que Front Page, il était interdit de l'utiliser en Afghanistan. Alors, deuxième liberté, c'était l'accès au code source. Donc là, on peut profiter de cette liberté si on a des compétences en programmation, évidemment. Troisième liberté, ben, une fois qu'on a récupéré le code source, on a le droit de le modifier, de l'adapter à ses besoins, de l'améliorer. Et dernière liberté, distribution, redistribution aussi. Ben, dès qu'on l'a amélioré ou modifié, on a le droit de publier, éventuellement sous un nouveau nom, les modifications qu'on a pu faire. Voilà. Et ça, ça s'appelle la licence GPL, créée par Richard Stallman, General Public License. Alors, on entend souvent dire que logiciel libre, logiciel gratuit, domaine public, c'est pareil. C'est pas vrai du tout. Il y a quelques années en Allemagne, Sony s'est pris un procès retentissant parce qu'il avait utilisé du logiciel libre dans un lecteur DVD. Il n'avait pas republié le code source en retour. Et des associations allemandes lui ont fait un procès et l'ont gagné. Et Sony a été obligé de publier et l'extrait utilisé, et même la totalité de son logiciel interne, sous forme de code. Alors, le mode de développement, c'est-à-dire le mode de création, est plus ou moins calqué sur les quatre libertés. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut utiliser le logiciel autrement qu'en forme programme exécutable peut d'abord accéder au code par des moyens variés, peut évidemment l'étudier, faire tous les essais souhaitables, peut le modifier, c'était la troisième liberté, et peut le publier sous forme de logiciel à télécharger, revendre ce logiciel en boîte. Même si on l'a eu gratuitement, on peut revendre du logiciel libre, c'est pas interdit. Bon, sauf que les gens savent quand même que c'est disponible autrement, quoi. Et donc, en résumé, le logiciel libre, c'est à la base créé par des gens qui ont eu besoin de certaines fonctions, qui ont créé avant tout le logiciel qu'ils souhaitaient, et qui le laissent à disposition si des fois ça intéresse d'autres personnes. Validation par les pairs, là on est dans l'exemple type du fonctionnement de la recherche scientifique. C'est-à-dire, votre logiciel est relu, je parle du code source, est relu par d'autres informaticiens qui feront leurs remarques, qui discuteront ça sur des listes de diffusion, qui suggéreront des modifications, qui pourront créer un logiciel dérivé s'ils ne sont pas d'accord avec vous, bref, liberté encore. Et, a priori, derrière tout ça, aucun impératif commercial, la technique, la qualité doit primer. Il n'y a pas un service marketing qui vous dira de sortir le logiciel en bridant des parties ou en réservant des fonctions pour la version suivante dans 2 ans. Quoi. Alors, le développement, qui peut développer ça? N'importe qui a les compétences en programmation, on l'a dit. Mais à la base, c'était des bénévoles, puisque au tout début, les sociétés ne payaient pas pour ça. Après, quand on a constaté la qualité du résultat, malgré un développement tout à fait anarchique, a priori, des grandes sociétés s'y sont mises et ont salarié des gens pour développer ou améliorer des logiciels existants. Alors, il y a eu Sun qui n'existe plus, qui était un fabricant de logiciels et de matériel, des serveurs, des stations de travail puissantes pour l'image. Mozilla qui a créé, entre autres, le navigateur Firefox que vous utilisez sûrement, sur du Linux. À la base, Mozilla cherchait à casser le monopole Microsoft avec Internet Explorer. Et était passé par différentes versions, Netscape à un moment, si vous vous rappelez de ce nom. IBM développe toutes sortes de logiciels en libre, en version Linux, ou même sous d'autres variantes d'Unix. Des logiciels professionnels pour le réseau, le calcul, développe depuis très longtemps pour ses cartes graphiques ou ses cartes Wi-Fi des pilotes en version Linux. Des fournisseurs d'accès français, Free Orange, utilisent des Unix commerciaux ou libres comme Linux pour leur fonctionnement interne, pour programmer leur machine box. Ce sont des versions réduites de Linux qui fonctionnent dedans. Tous les fabricants de téléphones, Apple. Alors Apple, c'est un peu différent. Ils ont créé un système dérivé de variantes d'Unix. Mais comme ils voulaient garder un système privé, un système propriétaire leur appartenant en propre, ils sont allés chercher des logiciels qui n'avaient pas la licence GPL, qui avaient des licences plus permissives. Des licences qui leur permettaient de privatiser leurs modifications. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Parmi les salariés, y a aussi des chercheurs qui peuvent être fonctionnaires. Donc le logiciel libre, en fait, n'est pas gratuit la première fois qu'on le développe. Mais après, il le devient par sa liberté.
Free, ça veut dire libre, mais ça peut aussi vouloir dire gratuit. Et c'est là toute l'ambiguïté quand on parle de logiciel libre. La gratuité, il faut bien que quelqu'un la paye. Au départ, en tout cas, comme le dit Fred. Ensuite, on ne devrait plus avoir qu'à partager et éventuellement payer un service si on ne trouve personne dans la communauté qui puisse nous aider gratuitement. On ne dit pas « gratuit comme un oiseau », « free as a bird », comme dans la chanson qu'on entend derrière ma voix. Ça veut bien dire « libre comme un oiseau » et non « gratuit comme un oiseau ». Et au lieu donc de se focaliser sur la gratuité des logiciels libres, on parlera plus volontiers de logiciels open source, soit « source ouverte ». Et avant de libérer l'oiseau, il faut bien ouvrir la cage.
I won't wanna tell you how to do it proper. Hot under arrest like a criminal copper. Driving lady crazy, put my head on the blocker. Singing to my ear, do it clear, I never stop. Get caught by the raindrops, you got the light. For life, I might like a nightlight on. Baby, you and me will take it to the top. I've been waiting for you like a leap after the
payer des licences, on peut payer des gens à faire fonctionner, à entretenir le logiciel, au lieu de payer des licences à des sociétés qui ne paieront pas leurs impôts en Europe. Vous payez le professionnel du coin. Et puis, accessoirement, l'envie de partager. Tous ces logiciels laissés en libre téléchargement, vous êtes dans la plus parfaite légalité parce que leur licence, licence GPL par exemple, prévoit cette possibilité. Après, quand on est, j'ai parlé deux ou trois fois de, bon, quand même d'avoir la compétence en programmation. Je ne l'ai pas personnellement, mais s'adresser au développeur du logiciel par un simple mail ou à une liste de diffusion, simplement pour dire moi, j'aurais bien envie que le logiciel fasse ça. Par exemple, j'aurais bien envie que, bien que ce soit un logiciel de tri de photos, qui ait quand même une petite fonction de recadrage. C'est pas difficile à programmer, c'est pas difficile à demander, et ce sera sûrement dans la prochaine version, puisque les logiciels, les uns les autres, peuvent se partager du code. Relevé de bugs. ben, vous signalez tel fonctionnement anormal dans votre version de logiciel, sur votre machine en précisant le modèle. Ça peut rendre service à d'autres. Si vous êtes plutôt littéraire, vous pouvez écrire une documentation ou la traduire. Et là, nul besoin de programmer, c'est juste écriture, lecture. Les artistes peuvent, je sais pas, dessiner un jeu d'icônes pour un logiciel ou un site web, dessiner carrément l'interface graphique du logiciel, son aspect à l'écran, sans avoir besoin de programmer, juste avec des logiciels d'image. Alors, on arrive à Linux. Alors, Linux, c'est... au départ, c'est... on peut à peine le qualifier de logiciel. C'était Linux, c'est un noyau de système d'exploitation. C'est-à-dire lui qui va faire le lien entre les programmes que vous utilisez de façon plus ou moins directe et les pilotes eux-mêmes reliés au matériel. Et donc, en 91, il a eu l'idée de... Alors, pour lui, au début, c'était juste un petit projet d'amusement, disait-il, un hobby. Et il a eu l'idée de lier son noyau de système Unix au projet GNU de Richard Stallman, alors qui était pas mal avancé, qui avait des éditeurs de texte, des compilateurs, des langages de programmation, certains créés par Stallman lui-même, mais manquait un noyau de système. Et plus tard, donc, il l'a libéré, il l'a mis sous licence GPL, comme le système GNU de Stallman.
Permettez-moi de faire une analogie entre les programmes informatiques et les recettes de cuisine. Il existe de nombreux points communs entre un logiciel et une recette, avec une liste d'étapes à suivre, des règles qui déterminent à quel moment vous avez fini ou comment revenir en arrière. À la fin, on obtient un certain résultat. Si vous aimez cuisiner, vous échangez sans doute vos recettes avec vos amis et vous êtes probablement amené à les modifier. Si vous avez modifié votre recette, que le résultat vous plaît et que vos amis s'en régalent, il y a des chances pour que vous leur donniez la nouvelle version de cette recette. Et maintenant, imaginez un monde dans lequel vous ne pourriez pas changer votre recette parce que quelqu'un aurait décrété qu'il est impossible de la modifier. Et imaginez que si vous partagiez quand même la recette avec vos amis, ils vous traiteraient de pirate et feraient tout pour vous envoyer en prison pendant des années.
Merci à Fred et Yves du club Linux Tarn, merci à Richard Stallman. Pour la musique, merci au quintet de guitare manouche Opa Tsupa, merci à Didier Vampas et merci à Tom Fire et Soumti. Retrouvez le club Linux Tarn sur www.linuxtarn.org ou via la liste linuxtarn.org/liste-au-pluriel.surlefil.org. À suivre, on parlera la prochaine fois de celui qu'on appelle le dictateur bienveillant, Linus Torvalds. Thank you.